Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et l'émission Zone de Contact qui vous accompagne sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Ravi de vous retrouver à nouveau sur le 99.5 FM. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. La Russie est devenue plus forte qu'avant le début de son opération spéciale en Ukraine selon Sergueï Lavrov, la MINUSMA qui met officiellement fin à 10 ans de présence au Mali et un nouveau lot humanitaire de 23 000 tonnes d'engrais russes est parti à destination du Zimbabwe. Le général Chiani a estimé que la France soutient les groupes terroristes au Niger. Un analyste et consultant indépendant nigérien indiquera les bénéficiaires de l'instabilité dans la région. Le président de la transition burkinabé a déclaré que l'Alliance des États du Sahel évoluera à l'avenir vers un groupement économique. Trois spécialistes maliens, burkinabés et nigériens en économie évalueront à notre micro les perspectives de l'AES. L'AES peut devenir un moteur de développement pour ses pays membres. Le vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition du Mali reviendra sur les avantages économiques de la participation à l'Alliance. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a participé au récent forum de Doha. Il s'est exprimé sur de nombreux dossiers internationaux, à commencer par l'opération spéciale russe en Ukraine. Selon M. Lavrov, la Russie est devenue encore plus forte qu'elle ne l'était avant ces événements. Le chef de la diplomatie russe a ajouté qu'il fallait transmettre au président ukrainien Volodymyr Zelensky les questions sur la possibilité d'un règlement diplomatique en Ukraine. En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, le ministre russe a déclaré que la Russie entretenait des relations uniquement avec la branche politique du Hamas. Pour rappel, fin octobre, une délégation du Hamas a été reçue à Moscou. Sergueï Lavrov a rappelé à cet égard que Moscou poursuivrait ses pressions politiques en vue de résoudre ce conflit. Enfin, le chef de la diplomatie russe est revenu sur les prochaines élections présidentielles qui auront lieu aux États-Unis en 2024. Il a dit que la Russie respectait le peuple américain et qu'elle ne commente pas la possibilité de victoire d'un des candidats. C'est un geste qui témoigne d'une forte symbolique. La MINUSMA a descendu le drapeau des Nations Unies sur son quartier général, proche de l'aéroport de Bamako, a rapporté sa porte-parole, Fatoumata Kaba. Elle a annoncé que la cérémonie a marqué la fin de la mission, bien que certains de ses éléments soient encore sur place. L'engagement de la MINUSMA a commencé en 2013. Plus de 180 soldats y ont laissé leur vie. Elle faisait l'objet de vives critiques de la part des Maliens, qui dénonçaient son incapacité à lutter contre le terrorisme. Ces dernières troupes déployées sur le terrain ont quitté le 8 décembre dernier la base de Sévaré, dans la région de Mopti. Pour rappel, la MINUSMA a été poussée vers la sortie à la demande des autorités maliennes en juin 2023. Elles avaient exigé un retrait d'ici à la fin de l'année. La première phase de ce retrait s'était achevée fin août avec le départ du camp de Ménaka, situé dans le nord-est du pays. Le groupe Uralchem a fait don d'un nouveau lot d'engrais russes à destination du Zimbabwe. Une cargaison humanitaire de plus de 23 000 tonnes d'engrais a été chargée depuis un port européen sur un navire affrété par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. La cargaison a commencé son voyage vers le port de Beira au Mozambique et sera ensuite acheminée vers le Zimbabwe. Uralchem s'est engagé à faire don d'environ 300 000 tonnes d'engrais aux pays en développement pour atténuer une crise alimentaire mondiale sans précédent et pour prévenir les pertes de récoltes dans les pays confrontés au risque de famine. Plus de 100 000 tonnes d'engrais ont déjà été envoyées gratuitement à l'Afrique, notamment vers le Malawi et le Kenya. Pour rappel, le Zimbabwe est sur le point de recevoir aussi des navires contenant des céréales russes. Moscou envisage d'envoyer jusqu'à 200 000 tonnes à 6 pays africains. La Somalie a déjà reçu 25 000 tonnes de blé et une cargaison similaire arrivera bientôt au Burkina Faso. Outre le Zimbabwe, le Mali, l'Érythrée et la République centrafricaine recevront également du grain humanitaire russe. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 99.5 FM à Bamako. Le président nigérien de la transition, le général Abdourahmane Chiani, a accusé la France de soutenir les groupes terroristes opérant dans le pays. Selon le responsable, on ne peut pas combattre un incendie avec de l'essence. Lors d'un entretien sur la chaîne de télévision ORTN, il a déclaré que le feu du terrorisme reçoit de l'essence grâce à l'aide de la France. Afin de lutter contre ce fléau dans la perspective d'une relance économique, le général Tchiani a placé ses espoirs dans la conclusion de nouveaux partenariats avec des pays qui comprennent la situation du pays. Parallèlement, le départ des troupes françaises du Niger se poursuit. Selon l'armée nigérienne, il ne restait plus que 180 militaires français au 10 décembre. Les autorités de Niamey estiment que le désengagement des soldats français devrait être achevé d'ici au 22 décembre prochain. Au micro de Spoutnik Afrique, Issoufou Boubacar Kado Magaji, analyste et consultant indépendant nigérien, a fait le point sur le rôle de la France dans l'instabilité de la région.
Dans une interview diffusée par la télévision publique, le général Tchiani a évoqué les défis sécuritaires et a accusé la France de soutenir le terrorisme dans le pays. Comment voyez-vous le rôle de l'Occident dans les problèmes sécuritaires que traversent le Niger et ses pays voisins?
Bon, ce que le général Tchiani a dit, c'est une évidence. C'est établi que les terroristes là sont aidés par certains pays européens, notamment la France. Puisqu'en général, quand on arrive à les prendre, on fouille les poches, les gens trouvent de la monnaie, c'est pas de leur poche. Et puis ces terroristes-là ne fabriquent pas des armes, ils ont des armes sophistiquées. Souvent dans les combats, on prend même certains Européens. Quand nos militaires sont en accrochage avec les terroristes, ils constatent qu'il y a des Européens qui les conseillent, souvent même qui tombent sur le champ de bataille. C'est ce qui fait dire que c'est l'Occident qui crée cette affaire d'insécurité pour pouvoir divertir les dirigeants et pouvoir piller les ressources des pays africains. C'est comme ça qu'il faut expliquer ça. Ils veulent nos ressources pour continuer à les piller. Comment faire? Il faut divertir les dirigeants politiques par la sécurité. L'esprit est orienté vers la défense du territoire. Et entre-temps, ils sont en train de piller les pays. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce qui s'est passé au Congo. RDC Congo, ici dans les pays du Liptako, c'est la même chose. Si vous avez remarqué, tous les terroristes sont regroupés au Liptako. Le Liptako, c'est une zone qui regorge beaucoup de l'or, beaucoup de ressources minérales. C'est ça qui c'est une évidence que l'Occident est à la base de cette insécurité dans le pays. Depuis qu'ils ont assassiné le colonel Kadhafi, tous les armes se sont déversées dans le désert du Sahel. C'est comme ça qu'il faut expliquer ça.
Pour rester dans le cadre de ce problème de sécurité, le général Tchiani a par ailleurs appelé à former de nouveaux partenaires de sécurité, une déclaration qui intervient peu après la signature d'un accord de défense avec la Russie. En quoi ce partenariat sera-t-il différent de ceux que Niger a connus avec les pays occidentaux, à votre avis?
Et les partenariats avec la Russie est plus gagnant-gagnant et plus efficace que ce qu'on a vu avec des pays voisins. Depuis qu'ils ont signé ces partenariats avec eux, la lutte contre le terrorisme, contre les bandits armés, contre les narcotrafiquants, donne des résultats. La preuve, ils ont pris Kidal, qui est un sanctuaire des terroristes. Kidal a été pris, pourtant l'armée française était là-bas pendant 10 ans, elle n'a pas pu libérer ce qui fait dire que elle est en complicité avec les terroristes là-bas.
C'était Issoufou Boubacar Kado Magaji, analyste et consultant indépendant nigérien pour Spoutnik Afrique. Il a fait le point sur le rôle de la France dans l'instabilité dans la région. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. En marge du dernier sommet de la CDAO d'Abuja, une autre alliance africaine lui fait concurrence sur le champ informationnel. Il s'agit bien entendu de l'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a évoqué, lors d'une allocution à la nation, les perspectives futures de l'AES. Selon lui, l'alliance qui a actuellement pour but de lutter contre le terrorisme évoluera vers une alliance économique et bien plus encore. Cette déclaration est loin d'être anodine. Récemment, les ministres de l'économie et des finances du Mali, du Burkina Faso et du Niger étaient réunis à Bamako. Ils ont recommandé de créer un fonds de stabilisation, d'une banque d'investissement, ainsi que la mise en place d'un comité chargé d'approfondir les réflexions sur les questions de l'union économique et monétaire. Enfin, le capitaine Ibrahim Traoré invitait tous les Africains brimés à s'unir pour faire face à l'adversité. Au micro de Spoutnik Afrique, le docteur Modibo Mao Makalou, économiste et gestionnaire financier malien, le professeur Amidou Sawadogo macroéconomiste burkinabé et enseignant-chercheur à l'université Joseph Ki Zerbo au Burkina Faso, ainsi que le professeur Terno Mamane, spécialiste en économie, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, ont évalué les perspectives d'évolution de l'AES vers une alliance économique. Écoutons-les tout de suite. Monsieur Makalou, le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré que l'alliance des États du Sahel évoluerait vers une alliance économique. Quelles sont les conditions préalables à une telle union et quels en seraient les avantages pour les pays membres de l'alliance?
L'alliance des États du Sahel est déjà une réalité puisque la charte de l'alliance des États du Sahel a été signée le 16 septembre 2023. Concernant ses membres, ce sont trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, donc qui ont décidé de créer une alliance politico-militaire, mais aussi économique. Donc, c'est basé sur le triptyque défense, diplomatie et développement. Et comme vous le savez, il y avait déjà une organisation qui date des années 70, qui regroupe déjà ces mêmes trois pays dans ce qu'on appelle la Haute Autorité de Développement Intégré du Liptako-Gourma. Le Liptako-Gourma, c'est cette région frontalière des trois pays qui fait une superficie d'environ 400 000 km². Et cette organisation du Liptako-Gourma est chargée du développement socio-économique et avait, depuis 2017, déjà aussi commencé à entamer les questions de sécurité. Et comme vous le savez, la sécurité sous-régionale est basée sur la coopération entre ces trois pays. Et je pense que c'est une très bonne approche. Et les avantages seraient quand même de mutualiser les moyens et de faire des économies d'échelle. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces trois pays ont les mêmes défis, font face aux mêmes menaces qui sont transfrontalières. Donc, à travers une coopération sous-régionale poussée, je pense que non seulement ils pourront faire face aux défis socio-économiques, mais aussi aux défis de défense et de sécurité si les efforts sont bien mutualisés et bien coordonnés.
Et vous, Monsieur Sawadogo, quel est votre avis sur cette union économique?
Moi, je pense que les conditions préalables d'une union économique, c'est qu'il y ait diversification des échanges et bien sûr un renforcement des liens commerciaux, c'est-à-dire une intensification des échanges entre les différents partenaires. Voilà, quand vous prenez le Burkina, le Niger et le Mali, déjà, ce sont des pays qui ont les mêmes réalités, qui parlent à peu près les mêmes langues et qui ont les mêmes besoins. Donc, par conséquent, un renforcement, une intensification des échanges est possible. Et cela pourrait être plus bénéfique pour les deux pays en créant un marché commun et en rendant le marché plus vaste et plus disponible. Cela va certainement permettre aux différents producteurs d'avoir un marché plus large pour pouvoir écouler leurs produits. Je pense que ça, ce sont les conditions économiques. Mais en ce qui concerne que ce soit une union monétaire ou une union économique, c'est la volonté politique qui prime essentiellement sur les autres aspects. Quand on prend l'exemple aussi récent de ce qui s'est passé en Europe en 1999, vous avez vu que la Pologne et les autres pays satellites n'étaient pas au même niveau de développement que la France et l'Allemagne, mais ils se sont mis ensemble. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus la volonté politique qui peut guider à une union économique, beaucoup plus que les raisons économiques. Les raisons économiques facilitent, voilà, et maintiennent la cohésion de l'ensemble, mais c'est beaucoup plus avec la volonté politique qu'on décide d'une union économique ou d'une union monétaire.
Quant à vous, M. Mamane, qu'est-ce que vous pensez d'une telle évolution?
Le rapprochement entre ces trois pays est dicté par leur situation sécuritaire et également par leur volonté, si vous voulez, à en découdre avec les terroristes. Et c'est de là que procède, si vous voulez, la nécessité, en tout cas, que ces pays puissent avoir un programme commun ou une vision commune à l'avenir, dans le présent comme dans l'avenir, pour faire face aux défis sécuritaires et aux défis économiques. Et quand on sait que les défis sécuritaires dépendent intimement des conditions économiques, tout le monde est d'accord que le terreau du terrorisme, c'est avant tout, si vous voulez, la situation de pauvreté, la situation de sous-développement. Donc, je dirais que la condition, c'est la volonté de ces pays. Et cette volonté, je crois qu'elle est là. Depuis que les pays ont compris, ces trois pays ont compris qu'ils sont en train de lutter contre un ennemi commun. Et cette lutte, j'allais dire au plan sécuritaire, doit être poursuivie en créant les conditions au plan économique, au plan social, pour éviter à l'avenir ce genre de travers, ce genre de situation fâcheuse. Et donc, à mon avis, ce sont là les conditions, et ces conditions sont déjà réunies. Vous avez des dirigeants qui sont vraiment motivés, qui sont décidés, et vous avez également les peuples respectifs de ces pays qui les accompagnent, qui les soutiennent à 100%. Donc, le volet économique ou l'alliance au plan économique, en tout cas, il ne reste plus qu'à la mettre en place. Et là, pour cela, la seule condition peut-être qu'on peut relever, et ça concerne, si vous voulez, l'arsenal réglementaire, c'est-à-dire les structures à mettre en place pour prendre en charge les différentes questions de développement. Et le deuxième volet de votre question relativement aux avantages, mais chacun de ces pays peut espérer en tout cas tirer beaucoup de dividendes de cette alliance. D'abord, ça sera la fin de l'insécurité, et ensuite, les richesses dont ces pays regorgent, n'est-ce pas, seront, j'allais dire, exploitées de façon optimale et pour le bonheur des populations des trois pays, mais également pour le reste de l'Afrique.
Monsieur Makalou, en quoi l'alliance économique sahélienne pourrait-elle se distinguer des intégrations qui existent en Afrique, y compris dans sa partie ouest?
Les pays membres de l'AES font déjà partie de trois organisations d'intégration économique et monétaire, déjà en Afrique de l'Ouest, la première étant l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui regroupe l'ensemble des 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui partagent une monnaie unique, le franc CFA, et ensuite la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO, qui regroupe les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont présents au sein de la Communauté économique régionale géographique de l'Union africaine et aussi qui est une organisation d'intégration économique et monétaire. La différence entre l'AES et ces deux organisations, c'est qu'il n'y a pas d'empiètement pour le moment, puisque vous savez, la dernière étape de l'intégration économique et monétaire, c'est avoir une monnaie commune ou unique, et ce n'est pas le moment pour l'AES, ce n'est pas le cas pour la CEDEAO, mais c'est déjà le cas pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour le moment, les pays de l'AES partagent la monnaie commune, le franc CFA de l'UEMOA, et la monnaie unique de la CEDEAO est prévue pour 2027. Mais en attendant, déjà, l'AES quand même représente trois pays du Sahel qui sont quand même assez dépourvus en matière d'accessibilité aux services sociaux de base, c'est-à-dire à l'école, la scolarité est faible, l'accès aux services sociaux de base, y compris la santé, sont faibles, à l'eau potable aussi, et ce sont des pays très peu électrifiés. Donc, les défis sont les mêmes. Et aussi au niveau des critères de convergence macroéconomique, ces pays se ressemblent énormément, donc la création d'une monnaie commune ou unique ne devrait poser aucun problème En dehors de la mobilisation des réserves de change, c'est-à-dire des réserves d'or et des devises, et je pense que ce ne serait pas un problème si ces pays s'organisaient comme il le fallait, parce que ces trois pays disposent d'énormes réserves de ressources naturelles. Le Niger est déjà un producteur quand même non négligeable de pétrole depuis 2011, mais un gros producteur d'uranium. Et le Mali et le Burkina Faso étant de très grands producteurs, non seulement d'or, mais de coton et de céréales et de bétail. Donc, en mutualisant tous ces efforts, je pense que la mobilisation des réserves d'or ou de devises ne devrait pas poser de problème pour garantir une monnaie éventuelle.
Et vous, Monsieur Mamané, qu'est-ce que vous en pensez?
Cette alliance, elle aura comme fondement particulier par rapport à toutes les intégrations qui existent, la CEDEAO ou le MOA, le fait qu'elle réunit des pays qui sont similaires et aujourd'hui, ils présentent à peu près la même physionomie, c'est tous des pays de l'Interland, des pays qui n'ont pas accès à la mer et des pays qui font face, comme je l'ai dit tout à l'heure, au terrorisme soutenu, sponsorisé par les Occidentaux. Donc, étant donné cette similitude, et évidemment, une intégration économique et monétaire réunissant ces trois pays ne va pas être la même chose que celle qu'on a jusque-là connue, que ce soit au niveau de la CEDEAO où vous avez des pays, si vous voulez, qui sont très différents les uns des autres, des pays riches et des pays pauvres, des pays qui ont des cultures, j'allais dire, différentes, des pays, les pays côtiers et les pays du Sahel. Là, vous avez affaire, au niveau de l'AES, à des pays vraiment qui ont des similitudes.
Monsieur Sawadogo, comment, selon vous, l'AES pourrait se démarquer vis-à-vis des autres alliances sur le continent?
La différence entre l'AES et puis les autres formes d'intégration économique et monétaire, c'est que déjà, elle est ici essentiellement, l'AES est ici essentiellement de la volonté des trois États qui s'inscrivaient dans la logique de l'IPTACO. Et donc, par conséquent, ces trois États qui ont les mêmes dures réalités actuellement, qui font face au terrorisme. Donc, en ce sens, c'est déjà, ils ont déjà un point commun et ils ont une volonté commune, une vision commune avec des objectifs communs. Et donc, du coup, je pense qu'elle peut être différente essentiellement des autres formes d'intégration, en ce sens que il y a une volonté des gouvernants de ces pays-là de faire en sorte que l'alliance marche. Mais il y a des populations aussi qui adhèrent pleinement à cette forme d'intégration. Alors que quand vous prenez l'intégration de l'UEMOA, l'intégration sous forme CEDEAO, les populations ne se reconnaissent pas toujours et par conséquent, d'aucuns qualifieraient d'intégration des chefs d'État. Et donc, c'est des organisations qui sont recusées actuellement ils ne sont pas plébiscités. Les gens ne se sentent pas suffisamment intégrés comme l'AES.
Monsieur Makalou, récemment, on a les autorités des trois pays membres de l'AES qui ont recommandé la création d'un fonds de stabilisation, d'une banque d'investissement, ainsi que de la mise en place d'un comité chargé d'approfondir les réflexions sur la question de l'union économique et monétaire. Quelles opportunités offre à ces trois pays la création d'une monnaie commune, selon vous?
La création d'un fonds de stabilisation est une très bonne idée parce que ces trois pays sont extravertis. Ça veut dire que leur économie est dépendante du commerce extérieur et donc est vulnérable aux chocs exogènes. Et ce fonds de stabilisation va permettre quand même de créer un fonds de réserve quand les prix des matières premières vont augmenter au niveau international. Et quand les prix vont baisser, évidemment, ce fonds pourra rentrer en marche, pourra être utilisé pour amoindrir les chocs et les difficultés éventuelles, parce que des réserves auraient déjà été effectuées pour prévoir ces chocs exogènes négatifs. Maintenant aussi, il est question de mettre en place une banque d'investissement, ce qui est une très bonne chose. Cette banque d'investissement va permettre quand même de financer les projets structurants, les investissements pour les trois pays, que ce soit les routes, que ce soit les investissements socio-économiques et que ce soit des investissements aussi qui, au niveau du secteur privé, par rapport à la transformation structurelle des économies, c'est-à-dire comment créer de la valeur ajoutée, comme je l'ai dit, c'est une des vulnérabilités qui est commune aux trois économies, ne pas créer assez de valeur ajoutée. Et c'est cette valeur ajoutée, en créant plus d'usines, plus d'unités de transformation, qui va permettre d'avoir de la valeur ajoutée, d'avoir des revenus additionnels et de créer des emplois aussi pour les citoyens et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations.
Et selon vous, M. Mamané, quels sont les avantages de la création d'une monnaie commune pour les trois pays?
La question de la monnaie, c'est une question extrêmement délicate. Et ces pays de l'AOS, il faut le rappeler, sont déjà dans une zone intégrée. Ils appartiennent à l'UEMOA. Ils utilisent la même monnaie, même si je dois quand même rappeler que le CFA n'est vraiment pas une monnaie digne de ce nom. Donc, ils utilisent un signe monétaire qui vaut ce qu'il vaut et qui est contrôlé exclusivement par la France. Et on a vu maintenant avec l'embargo qui est imposé au Niger, et comment le manque de contrôle de la monnaie peut être extrêmement nocif à la sécurité d'un pays. Aujourd'hui, le Niger, sous embargo, n'a plus la possibilité de faire des transferts, de faire des paiements, de recevoir des fonds de l'extérieur et d'avoir une nouvelle émission de monnaie, parce que tout cela est exclusivement et interdit par la France et à travers l'UEMOA dont elle a le contrôle absolu. Donc, pour l'avenir, il est évident que les enjeux vont se jouer au niveau de la monnaie.
Monsieur Sawadogo, qu'est-ce que vous pensez de la mise en place d'une monnaie commune pour les trois pays?
La création d'une monnaie commune appelle déjà à une forme de souveraineté. Je rappelle que les trois instruments d'un souverain, c'est essentiellement la monnaie. Il y a le droit qui est l'institution, l'outil de l'institution judiciaire, mais il y a aussi l'armée. C'est les trois institutions qui sont les outils du souverain. Voilà, si vous n'avez pas une armée indépendante, une armée autonome, une armée puissante, alors votre souveraineté peut être mise en cause à tout moment. Si vous n'avez pas un appareil juridique conséquent, alors vous pouvez être sûr de l'objet de plusieurs tentatives, de plusieurs attaques, de plusieurs manipulations. Et donc, du coup, il faut une justice suffisamment solide. Et enfin, il faut une monnaie qui sert de moyen d'échange et une monnaie suffisamment prisée. Et donc, le fait quand même que les États veuillent essentiellement créer un fonds de stabilisation, une banque d'investissement, ça va permettre une certaine autonomie en finançant leur économie eux-mêmes et en faisant en sorte d'avoir une prospérité économique et financière. Les États vont se rendre autonomes et ça va conduire à une certaine forme de souveraineté. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, un des défis des États sahéliens, c'est la reconquête de leur souveraineté. Donc, souveraineté politique, souveraineté économique et souveraineté monétaire.
Monsieur Makalou, selon vous, sur la base de quels principes cette alliance pourrait-elle développer ses relations économiques avec ses partenaires, notamment avec la Russie? Et comment les membres de l'AES pourraient-ils profiter de ce nouveau format pour assurer leur croissance économique?
Effectivement, vous savez, c'est ce qui est très important pour l'Alliance, c'est que avec la Confédération, et ça veut dire qu'il y aura une concertation accrue au sommet de l'État, des positions en termes de défense, de diplomatie et de développement économique, essentiellement socio-économique. Donc, cela va faciliter les choses, et non seulement par rapport au fonds de stabilisation, mais aussi par rapport à la banque d'investissement, mais aussi avec les rapports avec les investisseurs et les partenaires techniques et financiers, mais aussi avec des regroupements comme les BRICS, et aussi en diversifiant les partenariats avec la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et puis d'autres pays comme l'Iran aussi et la Turquie. Donc avec de nouveaux acteurs, c'est-à-dire des pays émergents, une coopération sud-sud ou bien même une coopération triangulaire avec les pays plus développés et des pays émergents. Et évidemment, cela pourrait permettre de gagner non seulement du temps, mais aussi d'aller vite dans la mise en œuvre de l'intégration économique et monétaire pour ces trois pays, parce qu'ils parleraient d'une seule voix et ils combineraient leurs efforts pour aller de l'avant, non seulement en matière de projets énergétiques, mais aussi d'aménagement hydro-agricole, mais aussi de la mobilisation des ressources hydrauliques, parce que malgré la présence du désert l'aridité des terres dans ces trois pays, les trois pays disposent des ressources hydrauliques non négligeables, mais il va falloir aller vers la maîtrise de l'eau et ne pas compter sur la pluviométrie. En ces termes, il y a le lac Tchad au Niger, il y a l'office du Niger et le fleuve Niger et le fleuve Sénégal au Mali, il y a le Sourou et le Volta au Burkina Faso. Donc, tout cela va permettre aussi de développer. Ensuite, il s'agira aussi, à cause de la continentalité, parce que ces trois pays sont aussi enclavés, de développer les infrastructures de base, y compris les transports, que ce soit les transports aériens, les transports fluviaux, les transports routiers, mais aussi les transports ferroviaires. Donc, je pense que ce serait une excellente idée dans ce sens.
Monsieur Sawadogo, à votre avis, comment les trois pays membres pourraient profiter de ce nouveau format pour développer leurs relations économiques avec leurs partenaires?
Je pense que déjà, la relation avec la Russie, l'alliance des États du Sahel, là, les trois États actuellement, Mali, Niger et puis le Burkina, déjà, ils entretiennent une relation commerciale, mais ils entretiennent beaucoup plus de relations dans le domaine militaire. Dans le domaine militaire, étant donné que les pays de l'Alliance ont des besoins de sécurité, alors la Russie accepte volontiers non seulement les vendre des armes, les assister, assister à la formation, mais la Russie accepte accompagner vraiment ses États dans le domaine sécuritaire. Bien sûr aussi dans le domaine économique, parce qu'il y a des projets, je pense, de construction d'usines dans les pays de l'Alliance. Et par conséquent, la Russie peut avoir un apport conséquent, soit en participant directement à la construction de ces usines, soit en prenant des parts ou en faisant en sorte qu'il y ait des investissements directs étrangers dans ces pays. Dans tous les cas, la Russie peut participer activement, essentiellement, au développement économique de ces États et vice-versa. L'Afrique pourrait fournir essentiellement aussi à la Russie des matières premières. Voilà, des minéraux comme l'uranium, le magnésium, du fer, du zinc, voilà, de l'or et j'en passe. Voilà, qui peuvent être des matières premières pour pouvoir faire tourner des usines russes. Au-delà de ceci, je pense qu'il y a une collaboration en matière d'échange du capital humain et essentiellement du capital financier. Et la Russie peut contribuer efficacement au développement économique de ces pays. Et vice-versa, ces pays-là aussi vont contribuer au développement économique de la Russie, qui peut être aussi à la recherche d'un marché plus vaste, mais qui peut être aussi à la recherche de matières premières et aussi de la main-d'œuvre moins qualifiée, bien sûr, mais relativement moins chère.
Et vous, M. Mamane, qu'est-ce que vous en pensez?
Donc là, je plaide en faveur d'un partenariat gagnant-gagnant, où chacun, en tout cas, trouve sa part, et non un partenariat déséquilibré, où certains gagnent et que d'autres perdent sur toute la ligne. Et je pense qu'avec la Russie, il en sera ainsi. Et la Russie, c'est un partenaire et en tout cas fidèle, un partenaire qui est soucieux, et cela est largement démontré, et de l'intégrité des pays, et surtout les pays africains qui sont faibles. La Russie, c'est vrai, la Russie cherche ses intérêts, défend ses intérêts, mais il est loisible de constater que, en tout cas, dans la quête de sa souveraineté économique, la Russie n'a jamais cherché, en tout cas, à gruger un pays tiers ou à saborder son indépendance, ce qui nous conforte à penser que un partenariat avec la Russie, ça reposera en tout cas sur, sur le respect mutuel et sur la réciprocité en matière, en tout cas, de gains, c'est-à-dire résultant donc des échanges. Et là, l'Afrique attend, l'AES attend en tout cas beaucoup de la Russie, notamment dans la fourniture des équipements industriels et en particulier énergétiques, puisque la Russie a une technologie très avancée dans le domaine nucléaire et les pays de l'AES étant riches en tout cas en énergie. Donc, dans l'uranium, ou pour le cas du Niger, donc on s'attend à ce que, à ce niveau, la Russie ne se cantonne pas seulement sur la coopération militaire, mais également dans le domaine du développement et qu'elle aide les pays africains à asseoir leur souveraineté énergétique et à travers la construction d'une centrale nucléaire à des fins civiles.
Monsieur Makalou, le capitaine Ibrahim Traoré invitait tous les autres pays africains brimés à s'unir face à l'adversité. Pensez-vous que l'Alliance des États du Sahel sera amenée à accueillir nouveaux membres à l'avenir ?
Oui, c'est prévu dans les textes, dans la charte de l'AES, mais les décisions sont prises à l'unanimité des trois membres. Et évidemment, un nouveau membre peut être accueilli, mais tout va dépendre de l'attractivité de cette alliance en termes de résultats, non seulement pour résoudre les défis d'abord de défense et de sécurité, mais aussi les défis socio-économiques. Mais comme vous le savez, il n'y a pas de paix et de sécurité sans développement, mais il n'y a pas de développement non plus sans paix et sécurité. Donc je pense que l'alliance est ouverte à tous les pays qui voudraient s'y adjoindre. Et comme je vous l'ai dit, ces trois pays occupent la plus importante surface, superficie en Afrique, même avant l'Algérie. Et donc, cette alliance est entourée de plusieurs pays. Et évidemment, je pense que tous ces pays, y compris les pays du Sahel et même des pays du Golfe de Guinée aussi, et d'autres pays côtiers, pourrait se joindre à cette alliance, évidemment, je l'ai dit, ce serait en termes d'attractivité et des avantages qui surmonteraient les inconvénients au sein de cette alliance.
Et vous, M. Mamané, que pensez-vous de l'ouverture de l'Alliance des États du Sahel à de nouveaux membres ?
Oui, ce appel du capitaine Ibrahim Traoré du FASO vient à point nommé. Et moi, je trouve son appel vraiment bien à propos, et parce que les pays qui sont grugés par la politique france-africaine de l'Afrique, et ce ne sont pas seulement les pays du Sahel, mais tous les pays, en tout cas dits francophones et même lusophones, en tout cas sont sous la domination et sont sous l'emprise de l'impérialisme français, l'impérialisme otanien de façon générale. Donc, je trouve que son appel est effectivement à l'ordre du jour et correspond à une réalité incontournable, j'allais dire en tout cas incontestable. Et parce que les pays du Sahel ne sont pas les seuls, si vous voulez, à souffrir le martyr, en tout cas, de la domination française.
Et vous, Monsieur Sawadogo, quelle est votre opinion sur cette question?
Personnellement, je pense que l'alliance des États du Sahel, s'il y a des élections, je ne vais pas prédire l'avenir, mais si les élections se passent au Sénégal, il y a une forte chance que celui qui va gagner le pouvoir là puisse basculer vers l'alliance des États du Sahel. Parce que quand on regarde ça, les fondements de l'alliance des États du Sahel là, ça corrobore avec les besoins de la jeunesse, ça corrobore avec les masses populaires dans les pays sahéliens. Et je pense qu'il y a une forte chance que certains pays rejoignent l'alliance des États du Sahel. Ce n'est pas encore gagné, mais je pense que si ces pays-là déjà montrent un bon exemple et une bonne crédibilité pour l'alliance des États du Sahel, ça ne serait pas très étonnant que certains pays se rallient à l'alliance des États du Sahel.
Monsieur Mamané, parallèlement, la CDAO s'est réunie à Abuja. Elle a ouvert la voie à un assouplissement des sanctions contre le Niger, sous condition. Comment évaluez-vous ces déclarations?
Les pays de la CDAO, qui étaient à Abuja le 10, c'est des pays qui sont, les présidents qui sont réunis ont fait montre de leur irresponsabilité, de leur insouciance. Je ne comprends pas comment des Africains, de surcroît nos voisins, puissent développer des idées comme celles qu'ils ont en tout cas eu à avancer pour justifier un embargo total sur notre pays où pratiquement selon leurs vœux, les produits alimentaires ne rentreront pas au Niger, les produits pharmaceutiques ne rentreront pas, l'argent, donc un embargo également financier et monétaire. Donc, toutes choses qui conduiraient en tout cas à une déconfiture totale de notre pays. Et au lieu d'être une structure d'intégration, la CDAO montre qu'elle n'a nullement en tout cas, ce souci-là est d'accompagner les efforts de développement des populations et d'alléger leurs souffrances.
Monsieur Sawadogo, quelle est votre analyse des dernières déclarations de la CDAO?
Je pense que la CDAO est une institution d'intégration sous-régionale, voilà, qui a ses prérogatives, mais elle s'est fragilisée avec le manque de prévision des crises en Afrique. Et surtout de pouvoir les éviter. Et la BCAO est une chose. La CDAO est en train de sauver maintenant essentiellement les meubles sur les questions politico-militaires. Et par conséquent, je pense, a perdu quand même son bâton de pèlerin, son bâton de maître. Et par conséquent, la CDAO actuellement gagnerait à repenser essentiellement sa politique, la politique à l'endroit des États, la politique de prévention des crises, la politique de faire en sorte de juguler les crises. Et sinon, la CDAO est une institution qui court quand même essentiellement le risque d'être récusée par les États membres et notamment par les États membres qui ne voient pas essentiellement le rôle majeur que joue actuellement la CDAO dans l'échiquier des institutions sous-régionales. Et je pense qu'il appartient à la CDAO de se ressaisir et de se ressaisir à temps pour pouvoir reconquérir la place qui est quand même la leur. Sinon, la nature aurait du vide et d'autres institutions prendront très rapidement le pas sur la CDAO.
Et vous, M. Makalou, que pensez-vous des dernières déclarations de la CDAO à Abuja?
Oui, en effet, la CDAO a tenu sa 64e session au niveau des chefs d'État ce dimanche 10 décembre 2023. D'importantes décisions ont été prises et évidemment, je pense que la CDAO est revenue à de meilleurs sentiments. Et est en train de privilégier la négociation et le dialogue. Et effectivement, je pense que c'est la bonne voie parce que je ne vois pas en quoi la force pourrait résoudre le problème parce qu'il faut évaluer les avantages et les inconvénients d'utiliser la force, déjà dans des pays qui sont déjà fragilisés, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Niger. Ces deux pays sont déjà, font déjà l'objet d'attaques de groupes armés terroristes et donc n'ont pas besoin quand même de difficultés supplémentaires au niveau de la défense et surtout d'attaques de voisinage, parce que ce sont les mêmes populations qui sont réunies de part et d'autre de la frontière. N'oublions pas que le Niger et le Nigeria partagent 1400 km de frontière et que c'est les mêmes populations qui sont des deux contrées la frontière. Donc, je pense que c'est bienvenu et le Niger a nommé une équipe de médiation. La CEDEAO a nommé une équipe de médiation qui regroupe le président Fornia Simbe du Togo, le président Julius Madabio de Sierra Leone, auquel on a adjoint deux représentants, celui du président de la République fédérale du Nigeria et celui du président de la République du Bénin. Donc, ces quatre médiateurs vont continuer les discussions et cela va aider quand même peut-être à décrisper et peut-être amener un dialogue plus serein entre les dirigeants de la transition du Niger avec les autorités de la CEDEAO. Je pense que c'est une très bonne chose et c'est une approche très positive dans ce sens.
Monsieur Makalou, on a des experts et des officiels africains qui indiquent que les sanctions de la CEDEAO sont non seulement juridiquement illégales, mais aussi elles contredisent le sens même de la création et de la raison d'être de l'organisation. Peut-on dire qu'en imposant des sanctions contre ses membres, la CEDEAO les pousse elle-même à la mise en place d'alliances alternatives comme celle des États du Sahel?
Oui, tout à fait. C'est ma position aussi que c'était une aberration que des organisations d'intégration économique sanctionnent leurs membres. En ces termes, en fermant les frontières, en coupant l'électricité, en empêchant les produits de première nécessité et les médicaments de traverser la frontière pour punir les dirigeants d'un pays membre. Je pense que c'est mal ciblé parce que en réalité, quand on fait cela, on s'attaque plutôt aux populations plutôt qu'aux dirigeants. Et je pense que la CEDEAO doit non seulement reviser son régime de sanctions, bien vrai que la CEDEAO est à la croisée de chemin et joue sa crédibilité, parce que ce sont les textes de la CEDEAO qui autorisent aussi ces sanctions. Mais je pense que l'idée, c'est quand même de revenir à de meilleurs sentiments, que ces organismes comme la CEDEAO se consacrent surtout à l'intégration économique et monétaire, ce qu'elle fait très bien. Je pense que c'est la meilleure organisation sous-régionale d'intégration économique en Afrique qui, quand même, a remporté beaucoup de succès au niveau de l'intégration par rapport à la libre circulation des personnes, des biens et des facteurs de production. Et même les 15 pays de la CEDEAO bénéficient d'un passeport commun. Et la monnaie unique doit être créée en 2027 si le calendrier sera respecté en termes de convergence macroéconomique.
Et vous, Monsieur Sawadogo, qu'en pensez-vous?
Oui, je pense que l'effet pervers n'est pas exclu. Hein. La CEDEAO, si elle ne joue pas correctement son rôle, c'est comme je l'ai dit déjà un peu plus haut, la nature aurait du vide. Et généralement, si l'institution CEDEAO ne fonctionne pas dans toute sa plénitude, ne remplit pas objectivement ses missions avec efficacité, d'autres institutions vont naître et ils vont probablement remplacer ou faire de l'ombre à la CEDEAO. Je pense que c'est de bonne guerre de travailler pour redorer essentiellement la confiance entre les États et la CEDEAO et faire de la CEDEAO une institution puissante capable de régler les questions d'intégration, les questions de développement sous-régional, voilà, ou les questions d'ordre financier en relevant en tout cas de ses compétences. Mais en tout cas, l'Alliance des États du Sahel est en marche et il y a des comités qui sont désignés pour réfléchir sur un certain nombre de questions et par conséquent, tout est possible. Moi, je pense que tout est possible. C'est pas tard pour la CEDEAO de se ressaisir et de travailler pour mériter la confiance des chefs d'État et des pays membres. Mais si elle n'arrive pas à réagir assez vite, voilà, ne soyons pas étonnés que d'autres institutions naissent et prennent le pas sur la CEDEAO et fassent le boulot que la CEDEAO était dédiée à faire.
Monsieur Mamané, je vous donne le mot de la fin. Que pensez-vous de cette posture de la CEDEAO qui, en sanctionnant ses membres, finit par pousser à la mise en place d'alliances alternatives?
On ne dira jamais assez des sanctions qui sont imposées au Niger. Et leur caractère illégal, leur caractère cynique, leur caractère, j'allais dire, inhumain, on ne dira jamais assez. Le Niger aujourd'hui n'a plus du choix. Lorsque il ne peut plus importer des produits alimentaires, le Niger a vu son courant électrique coupé, le Niger a vu ses produits pharmaceutiques bloqués à la frontière, et ses ressources financières, ses avoirs gelés au niveau de la BCAO. Et il n'y a plus de nouvelles émissions de monnaie. Et l'accès au marché obligataire sous-régional est carrément interdit. Donc, pratiquement, le Niger n'a aucune raison de rester dans l'UEMOA. Il n'y a plus de raison. On ne peut plus rester. On ne peut pas non plus rester dans la CEDEAO. Donc, je peux dire que l'UEMOA et la CEDEAO poussent le Niger, le Burkina et le Mali vers la porte de sortie et que ces pays-là sont obligés de penser à des solutions alternatives, ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, l'AES constitue justement cette solution alternative, puisque ces pays-là, ils peuvent mettre ensemble leur intelligence, leurs ressources, leurs moyens militaires, économiques, etc., etc., et pour faire face aux défis posé par d'abord le terrorisme qui sont en train de vaincre, Dieu merci, mais aussi pour faire face aux défis du développement comme la lutte contre la pauvreté et à travers, si vous voulez, des initiatives d'industrialisation, de libre circulation des personnes, des biens, etc., etc.
C'était le docteur Modibo Mahomakalou, économiste et gestionnaire financier malien, le professeur Amidou Sawadogo, macroéconomiste burkinabé et enseignant-chercheur à l'université Joseph Ki Zerbo au Burkina Faso, ainsi que le professeur Terno Mamané, spécialiste en économie, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey pour Spoutnik Afrique. Ils ont évalué les perspectives d'évolution de l'AES en alliance économique. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Notre émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre se poursuit. Je salue celles et ceux qui viennent de brancher leur poste de radio sur le 99.5 FM. L'Alliance des États du Sahel peut devenir un moteur de développement pour ses pays membres. La création d'un marché commun et la sécurité dans la région devraient stimuler l'activité économique et attirer les investissements. Au micro de Spoutnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali, est revenu sur les avantages que son pays peut tirer de la participation à l'AES et aux facteurs qui ont freiné le développement de l'économie malienne jusqu'à présent. Écoutons-le tout de suite. Comment la création de l'Alliance des États du Sahel pourrait-elle contribuer au développement économique du Mali?
Dès que la charte a été adoptée pour l'Alliance des États du Sahel, maintenant, l'idée qui en est sortie, c'est de faire une confédération, ce qui va nous aider à avoir un marché qui sera beaucoup plus important. Parce que si vous prenez les trois pays, nous ferons un peu plus de 60 millions d'habitants, à peu près un peu moins de 3 millions de kilomètres carrés. Donc, ce serait un marché très important. Et en conjuguant nos efforts, nous pouvons quand même attirer des investissements pour implanter des industries sur notre sol Et encore, comme vous voyez récemment, les discussions avec la Russie, qui a promis de nous aider à implanter des unités de production d'électricité et concernant l'énergie solaire, concernant les centrales nucléaires et ainsi de suite. Je pense que quand on aura eu une énergie bon marché, on pourra implanter beaucoup d'industries. Et je suis sûr que dans les 10 ans à venir, les trois pays là pourront émerger et peut-être avoir un PIB à la hauteur même des pays comme le Qatar ou bien l'Arabie Saoudite.
Le Mali est un pays très riche en différentes ressources naturelles. Comment évaluez-vous le potentiel d'exportation du pays? Et qu'est-ce qui a empêché à exploiter pleinement ce potentiel jusqu'à présent?
Il y a plusieurs facteurs. Généralement, tout ce qu'on exporte relève de l'économie primaire, c'est-à-dire que ça concerne les mines et les minéraux qu'on extrait, l'agriculture et l'élevage. Et malheureusement, les marchandises exportées ne sont pas, la plupart des temps, de façon industrielle, produites pour avoir des plus-values. Donc, c'est à l'état brut qu'on exporte généralement tout ce que nous avons. Le Mali même, depuis le moment de la colonisation, le colonisateur avait tout fait pour transformer notre pays en un pays qui pouvait produire seulement de la matière première pour leur propre industrie. Voilà. Donc, ce qui a fait que, avant même, par exemple, les cultures traditionnelles qu'on avait, on a dit tout laisser pour s'en donner seulement, par exemple, à la culture du coton, de l'arachide, et autre chose qui était destinée pour l'industrie européenne, surtout l'industrie française. Donc notre pays a été transformé en un pays qui servait seulement de source de matières premières pour la France. Donc tout a été fait pour nous maintenir dans cet état de dépendance. Même à partir de l'indépendance, on n'a pas eu accès au financement nécessaire pour l'implantation des industries. Et aussi, on a toujours eu un déficit d'énergie au Mali. Comme vous savez, l'énergie, c'est l'économie. Il n'y a pas les routes, il n'y a pas assez d'électricité. Il faut voir, par exemple, les routes, les ports les plus proches, par exemple, le port de Conakry-Guinée, qui fait 900 et quelques kilomètres. Souvent, même pour s'y rendre, en aller seulement, ce qu'on peut faire en un jour et demi, souvent vous êtes obligé de le faire en 3-4 jours parce qu'il n'y a pas de route. Bon, dans les mois, au lieu de faire que les camions puissent faire, par exemple, 3-4 allers-retours, les camions ne font généralement qu'un aller-retour. Donc ça, ce sont des facteurs qui sont vraiment contraignants et qui nous empêchent d'avoir des plus-values pour nous industrialiser.
Comment la Russie peut aider votre pays à développer son potentiel?
Et pour cela, il faut que nos trois pays puissent s'entendre avec la Russie sur les termes d'échange bancaire. Parce que comme vous savez, le Mali se trouve aujourd'hui dans la zone CFA. Et malheureusement, la zone CFA est sous la coupe de la France. Ça veut dire que pouvoir commercer avec la Russie, nous sommes obligés de passer par le SWIFT. Comme vous savez, avec les sanctions, souvent cela n'est pas possible. Donc il faut qu'on trouve d'abord un système de transfert d'argent entre le Mali et la Russie. Donc si on trouvait ce transport et cette possibilité de transfert d'argent entre le Mali et la Russie, et ce n'est pas le Mali seulement, les trois États de l'Alliance des États du Sahel, cela va nous faciliter dans nos rapports. Parce que généralement, dans le commerce entre ces trois États et la Russie, il y a des intermédiaires. Généralement, les intermédiaires sont les sociétés françaises, voilà, qui prélèvent une part de ce trafic. Si on a des commerces directs entre nous, cela va faciliter beaucoup de choses pour l'implantation de l'industrie, surtout les technologies dont la Russie peut nous amener pour qu'on puisse transformer nos matières premières sur place. Et aussi que la formation de nos cadres qui sont là, qui vont travailler dans ces industries.
C'était Fousseinou Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali pour Spoutnik Afrique. Il a présenté les avantages que son pays peut tirer de la participation à l'AES et de la coopération avec la Russie. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de mon émission où j'aurai le plaisir de vous retrouver. Je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.